Je vous invite ce matin à retourner avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 2. La semaine dernière, nous étions avec Jésus à Cana. Il était le Seigneur de la fête. Sans lui, la fête aurait tourné court. Mais Jésus est celui qui fait durer la fête. Aujourd'hui, nous suivons Jésus jusqu'à Jérusalem. Et nous verrons que le Seigneur est le Seigneur du Temple. Jésus est le Seigneur du Temple. Et nous allons faire une lecture du verset 13 jusqu'au verset 22. Ce message sera en deux parties cette semaine et puis dans 15 jours. Parce qu'il y a là des choses importantes dans tout ce que le Seigneur fait et nous dit dans ce passage. Mais prenons le temps de le lire si vous le voulez bien. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Comme chaque année, des milliers de Juifs, de familles juives, de tout Israël et de toutes les nations dans lesquelles elles étaient dispersées, montaient à Jérusalem pour célébrer leur grande fête, la fête des Juifs, la fête de Pâques, le temps le plus important de la vie sociale et religieuse d'Israël. Mais cette année, ils étaient loin de se douter que cette fête connaîtrait un incident notoire. Un incident par lequel un homme allait se faire connaître à toute la nation des Juifs. Et cet homme, bien sûr, c'était Jésus. Depuis quelque temps, Jésus avait commencé son ministère. Mais jusque-là, il n'était connu que de quelques personnes, Jean-Baptiste, entre autres, et quelques disciples galiléens à qui il avait manifesté sa gloire lors de la transformation de l'eau en vin à Cana. Mais dans l'effervescence de Jérusalem, Jésus n'était encore qu'un inconnu. Mais cela n'allait pas durer très longtemps. C'est donc pendant cette fête de Pâques, la fête des Juifs, que Jésus a fait son entrée dans la vie publique d'Israël. Et il faut reconnaître que son entrée fut fracassante et qu'elle allait marquer les esprits pour longtemps jusqu'à nous aujourd'hui. En effet, ce passage que l'on appelle le passage des marchands du Temple et rentrer dans l'histoire commune. Mais il nous faut nous y retourner, nous y replonger, afin d'en trouver encore toute la saveur pour nos vies aujourd'hui. Ce texte nous surprend quelque part. Il nous surprend d'abord parce que dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ce texte vient à la fin du ministère de Jésus, 5 jours avant sa mort à la croix. Tandis que Jean place cet événement tout au début du ministère de Jésus, en ouverture de son ministère. Et puis il nous surprend aussi parce que ce Jésus que nous rencontrons là dans le temple, ce n'est pas tout à fait celui que nous connaissons par ailleurs. Pour nous, Jésus est avant tout un homme plein d'amour, plein de compassion, de douceur et... Ça ne nous vient pas spontanément à l'idée de nous l'imaginer comme un homme capable de s'emporter presque avec colère, avec véhémence, avec violence, et le voilà fabriquant un fouet, chassant les animaux, le voilà renversant les tables. Qu'est-ce qui lui prend? Et donc au moins une fois dans le cours de sa vie, de son ministère, Jésus s'est donc emporté à manifester de la colère. Alors, essayons de comprendre ce qui s'est passé et de découvrir quelles leçons nous pouvons en tirer pour nous-mêmes, pour notre vie d'Église. Ce matin, nous allons considérer 3 points. Nous allons d'abord parler de la Pâque à Jérusalem pour bien comprendre le contexte. Nous allons parler de la purification du Temple par Jésus. Et puis ensuite, par-dessus tout, nous parlerons de la passion de Jésus pour la maison de son Père. La Pâque était donc la plus importante, d'ailleurs elle demeure la plus importante des fêtes religieuses pour le peuple juif. Jean l'appelle d'ailleurs la fête des Juifs. La Pâque était l'une des trois occasions dans l'année où, selon la loi de Deutéronome 16,16, tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour se présenter devant l'Éternel. La Pâque, c'est la commémoration de la grande délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et à une époque où Israël était dominé et occupé par les Romains, c'était pour eux encore une source d'encouragement que de célébrer cette fête qui rappelait au souvenir commun qu'ils servaient un Dieu libérateur. Que faisaient-ils pendant cette fête? Eh bien, avant toute chose, nous le savons, le dixième jour du mois de Nissan, le mois de la Pâque, le premier mois de l'année, ils mettaient de côté un agneau sans défaut ou éventuellement un chevreau d'un an. Et au 14e jour, ils offraient cet agneau en sacrifice à Dieu et ils le mangeaient dans les familles. Et c'était un moment très important pour eux. C'était un moment tellement important que même les autorités romaines s'y mettaient aussi. Et les historiens nous apprennent que, comme ça se fait encore aujourd'hui dans les grandes occasions, les Romains faisaient, non pas regoudronner, mais ils réparaient les routes qui montaient à Jérusalem pour faciliter la circulation de ce grand nombre de personnes. Et il est même dit qu'ils blanchissaient les tombes afin que personne ne tombe ou ne touche une tombe, parce que s'il touchait une tombe, il devenait impur et il ne pouvait plus célébrer la fête. Quant aux maisons, elles étaient entièrement fouillées, nettoyées, fouillées parce qu'il ne devait rester aucun grain de levain dans la maison. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, et toutes les mamans juives dans les maisons scrutaient la maison pour découvrir le moindre grain de levain, et en même temps tout était nettoyé, les ustensiles de cuisine étaient entièrement lavés. Et ceux qui vivaient à Jérusalem arrangeaient leur maison et s'apprêtaient à recevoir invités et familles. Tout le monde s'habillait avec ses plus beaux vêtements. En fait, Jérusalem était en pleine effervescence, en pleine excitation. C'était le grand moment de l'année. Voilà donc des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles juives qui montaient à Jérusalem et qui se retrouvaient là dans la zone du temple qui devait être archi-bondée, archi-saturée. J'ai vu un peu ça, j'en ai touché un peu l'esprit lorsque, avec la famille, nous étions à Jérusalem un vendredi soir. Nous étions dans le quartier juif, juste au-dessus du Kotel, pour ceux qui connaissent. Il y a une grande place qui est là. Et sur cette place, il y avait toutes les familles qui arrivaient. Ce que j'aime beaucoup à Jérusalem, c'est qu'on se déplace en famille. On se déplace, il y a le papa, la maman, et puis généralement il y a 4-5 enfants, parce qu'il y a beaucoup de familles orthodoxes. Et ils trimbalaient tous leurs valises. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces valises? Des grosses valises. Je ne sais pas, on imagine qu'ils allaient peut-être chez des amis pour préparer le sabbat. Enfin, il y avait déjà une effervescence autour du Kotel. Je me disais, mais au jour de Pâques, ça doit être quelque chose. On m'a dit, c'est inabordable, c'est inaccessible, d'autant plus que les rues sont tout à fait étroites et qu'il y a toujours un ou deux taxis pour s'aventurer là-dedans. Donc surtout, il vaut mieux pas y aller à cette époque-là. Mais on peut imaginer ce que c'était donc à l'époque de Jésus. Et sitôt ces familles arrivaient, elles s'empressaient de monter au temple pour accomplir les préparatifs requis pour célébrer la fête de Pâques. Et la première chose qui devait être faite, les hommes devaient s'acquitter de la taxe, de l'impôt, déjà, pour le temple. Ça faisait partie de la loi. Ils devaient payer une taxe d'un demi-sicle avec l'argent du temple. Non pas n'importe quel argent, mais l'argent du temple. Le sicle du temple qui n'était trouvable que dans le temple. Alors quel que soit le pays d'où ils venaient, quelle que soit la monnaie qu'ils avaient en main, que ce soit des deniers romains, des drachmes grecs ou tout ce que vous voulez, lorsqu'ils arrivaient au temple pour payer leur impôt, selon la loi, ils devaient donc changer leurs pièces qui étaient considérées comme impures, les échanger contre le sicle du temple pour pouvoir payer leur impôt. Il se trouve que les changeurs qui étaient assis là avaient obtenu leur concession en l'achetant auprès des sacrificateurs. Ils étaient donc légitimement à leur place. Là, on nous raconte par contre que les frais de commission montaient jusqu'à 12,5%. Donc au passage, ils amortissaient, ils rentabilisaient leur situation. Après avoir payé l'impôt, il fallait maintenant s'occuper du sacrifice, non pas de Pâques, mais du sacrifice d'expiation. Parce qu'avant de célébrer la Pâque, il fallait offrir un sacrifice d'expiation pour les péchés de la maison, de la famille. Selon leurs moyens, l'un un mouton, l'autre un bœuf, l'autre une colombe. On pouvait venir avec un animal, ou alors sans animaux, et on trouverait toujours des animaux sur place, parce que si vous habitez loin, très loin, c'était pas facile de se trimballer avec sa vache ou son mouton sur des centaines de kilomètres. Et puis ceux qui venaient malgré tout avec leur animal, peut-être habitaient-ils dans la contrée, pas bien loin, ne pouvaient pas malgré tout offrir cet animal à un sacrificateur pour le sacrifice comme cela. Chaque animal apporté au temple devait être inspecté. Inspecté par des sacrificateurs qui devaient vérifier si l'animal remplissait toutes les conditions de pureté. Ce qui arrivait généralement, c'est qu'il trouvait un défaut. Et alors, ces animaux étaient en quelque sorte recalés, et il fallait obligatoirement acheter un animal en vente dans la cour du temple qui était certifié, kasher en quelque sorte, pur. Et pour les marchands qui étaient là, évidemment, c'était un privilège et un monopole, et c'était des entreprises florissantes qu'ils géraient. Mais à vrai dire, tout le monde s'en satisfaisait. Pour les uns, les pèlerins, ben ma foi, même s'il fallait payer un peu plus, c'était pratique. Pour les autres qui étaient en place, c'était très rentable. Mais ce qui était aussi admis, c'est que la présence des marchands et des changeurs était tout à fait légitime. La loi permettait cela. La loi, au contraire, poussait à établir ce genre de commerce. La chose était donc devenue une institution reconnue et personne ne se serait mis en tête de changer les choses sauf Jésus. Et quand il est rentré dans ce lieu, lui a été saisi dans son cœur. Il appelle cela une maison de trafic. Oh, par ce mot trafic, nous le trouvons très péjoratif, trafic. Trafic, c'est simplement commerce, affaire. Il n'y a rien, ce n'est pas forcément péjoratif ce que Jésus dit là. Mais ce qui le gêne certainement, c'est que cette pratique a lieu dans le temple, et puis particulièrement dans un endroit qui s'appelle la cour des gentils, le parvis des nations. Cet endroit, c'était le seul lieu où les non-juifs pouvaient prier le Dieu d'Israël à Jérusalem. Ils n'avaient pas accès aux autres parties du temple, ils devaient rester là. Mais comment prier Dieu au milieu des bêlements, des mugissements, des roucoulades et des tintillements des pièces sur les balances? Mais il faut le reconnaître, pour les Juifs, ce n'était pas un problème. D'ailleurs, pour eux, cette cour des nations, ce parvis des gentils, ce n'était pas vraiment le temple. C'était une cour à l'extérieur du temple. Oui, on dit que c'était le temple, mais ce n'était pas vraiment le temple. Oh, j'y reviendrai la prochaine fois parce que, vous savez, il nous arrive à nous aussi, que ce soit dans l'Église ou dans nos vies, de se dire, il y a le temple et puis il y a des zones tampons. Hein? C'est entre le temple et le monde. C'est en contact. Et le Seigneur ne lui voit pas les choses comme ça. Mais ça, je vous le réserve pour la prochaine fois. Avant d'aller plus loin, ayant parlé un peu de cette Pâque, je voudrais vous parler de la structure du temple. C'est important pour comprendre ce qui se passe. Le temple construit par Hérode le Grand, 46 ans pour construire le temple, c'est quand même quelque chose, était plus grand que l'acropole d'Athènes. Si certains vous avez visité Athènes, il y a donc cette acropole où il y a tous ces temples païens, et l'esplanade donc du temple était beaucoup plus vaste. Donc on imagine quand même on essaye d'imaginer la construction que ça représentait. Et ce temple était composé de plusieurs espaces distincts. Au cœur du temple, il y avait ce qu'on pourrait appeler le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était véritablement la maison pour les Juifs. Maison dans laquelle seuls les prêtres pouvaient rentrer. Et à l'intérieur de cette maison, il y avait le Saint des Saints, là où le grand prêtre, une fois par an, seul pouvait pénétrer. Vous savez que si aujourd'hui à Jérusalem vous prenez ce qu'on appelle le tunnel du Kotel, qui est un tunnel qui longe le mur des Lamentations par-dessous, vous pouvez aller jusqu'à l'endroit, et là vous avez des Juifs, et d'ailleurs Il y a des juifs qui prient à cet endroit, à un endroit particulier, qui est l'endroit le plus proche de l'ancien Saint des Saints. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'à l'extérieur, au mur des Lamentations, c'est séparé, homme-femme. Mais à cet endroit-là, qui est censé être l'endroit le plus proche du Saint des Saints, c'est surtout des femmes qui y prient. Mais c'est libre, mixte, hommes et femmes. Comme quoi, des fois, vous voyez, les traditions s'y mettent, mais l'important, c'est que chacun puisse accéder. Mais pour nous, nous avons dépassé cela. Mais en tout cas, donc, il y avait cette demeure. Et ce qui est important, c'est que c'est dans ce lieu que Dieu demeurait. Dans ce lieu, dans le Saint des Saints. Donc, voilà la maison. Autour de cette maison, il y avait une cour, un parvis, qui était appelé la cour d'Israël. C'était l'endroit où les juifs, les hommes juifs, se réunissaient, exclusivement les hommes. Et pour accéder à cette partie du temple, il y avait une porte. On connaît cette porte. Elle s'appelle la porte de Nicanor, ou la belle porte. C'était la porte du temple. Et dans Acte 3, il nous est dit que Pierre et Jean montaient au temple, et à la belle porte, il y avait un boiteux. Parce que les boiteux n'avaient pas l'autorisation de rentrer dans cette partie-là. Il y avait donc la cour d'Israël, et puis il y avait le parvis des femmes. Et dans le parvis des femmes, les femmes et les enfants se réunissaient. Pour les garçons, c'était jusqu'à 13 ans, et puis ensuite ils passaient dans la partie des hommes. Il y avait donc le sanctuaire, la cour d'Israël, le parvis des femmes et le parvis des gentils. La cour des nations, tout au fond. C'est dans cet endroit que se réunissaient les non-juifs. Et c'est aussi à cet endroit que l'on pratiquait deux activités qui étaient interdites à l'intérieur du temple. D'une part, la mendicité, comme le boiteux. Deuxièmement, le commerce. Et c'est dans cette partie-là que donc les vendeurs, les changeurs, avaient établi leur emplacement, puisqu'après, ils ne pouvaient pas y aller. Et entre la cour des nations et le reste du temple, toutes les autres cours, il y avait un mur que Paul appelle dans Éphésiens chapitre 2 un mur de séparation, un mur épais. Flavius Joseph, le grand historien juif du 1er siècle, nous dit que sur ce mur, il était écrit qu'il était interdit aux non-juifs d'aller au-delà de cette enceinte sous peine de mort. Il y avait donc une stricte séparation. Et quand Jésus, comme tous les juifs, et tous ceux qui rentraient dans le temple, rentra pour aller jusque vers la cour des hommes, eh bien, il passa d'abord par la cour des nations, le parvis des gentils. Et c'est là que, voyant tout ce qui se passait, c'est là qu'il laissa éclater son indignation et sa colère. Il fit un fouet, avec des cordes, certainement les cordes qui servaient à attacher les animaux, et il libéra les animaux, il chassa les vendeurs, il renversa les pièces de monnaie. Quel sacrilège! Parce qu'en tombant, les pièces se mélangeaient, les deniers romains avec le sicle du temple. Mais comment oser faire cela? Et Jésus laissa éclater toute cette colère. Ça provoquait véritablement un vif émoi parmi les gens qui étaient là. Imaginez donc la situation. Les vaches, les agneaux, les moutons, les chèvres, libérés et courant dans tous les sens, et les vendeurs essayant de les rattraper pour les ramener. Et puis les changeurs, mis à quatre pattes, en essayant de rattraper toutes les pièces qui leur échappent et qui vont rouler là-bas, jusque entre les pattes des animaux. Mais quelle cohue, quel bazar! Vraiment, qu'est-ce qu'avait fait Jésus? Pourquoi Jésus avait-il agi comme cela? Évidemment, nous le voyons directement, nous le comprenons, nous, dans notre contexte. Je veux voir, les Juifs ne le comprenaient pas ainsi. Mais pour Jésus, le temple de Dieu était utilisé à mauvais escient. Ces hommes avaient transformé la maison de Dieu en un centre commercial. Ils avaient oublié, ou ne souciaient plus, que la maison de Dieu n'est ni une entreprise, ni un centre pour faire du profit, mais c'est un lieu de culte. Mais surtout, ce que Jésus dénonçait dans le trafic de ces marchands, c'est qu'ils représentaient un obstacle. Ils représentaient un obstacle à la libre adoration de Dieu, que ce soit pour les juifs ou pour les non-juifs. Les juifs, en les faisant payer, en les obligeant à passer par là, et les non-juifs en occupant le seul endroit où ils pouvaient adorer le Seigneur. Dans notre histoire occidentale, ça nous rappelle bien sûr les indulgences que les dominicains vendaient. Et ces indulgences qui étaient vendues pour financer la construction du Vatican et devant assurer l'entrée au paradis ont déclenché la colère d'un homme. C'était Martin Luther, et ce fut là l'origine de la réforme. Jésus est le plus grand des réformateurs. Et sa première apparition publique devant sa nation fut inaugurée donc par un grand nettoyage. C'est significatif que Jean place ce texte au début de son évangile. Jésus commence par un grand nettoyage. Il chasse les uns et les autres en déclarant haut et fort que la maison de son père n'est pas une maison de trafic. Tiens, la semaine dernière, vous rappelez-vous ce que je disais entre Jésus et Marie? Jésus appelle Marie femme, mais Dieu, il l'appelle toujours son père. C'est son père, c'est la maison de son père. Et en appelant Dieu son père, d'emblée, il se positionnait comme fils de Dieu. Et en mettant de l'ordre dans le temple, il affirmait avec autorité qu'il était le Seigneur du temple. Jésus est le Seigneur du temple. Jean nous dit qu'à cet instant, devant tous ces événements, les disciples qui certainement étaient estomaqués, peut-être se faisaient tout petits, se sont rappelés cette parole des Écritures de David, « Le zèle de ta maison me dévore. » Il y avait véritablement un feu ardent dans le cœur de Jésus. Jésus brûlait de passion pour la maison de Dieu, pour la maison de son Père. Même plus, il était dévoré à l'intérieur. Dévoré. Et il ressentit ses vendeurs, leurs marchandises, leur argent, comme une insulte contre Dieu. Il y a un texte de l'Ancien Testament, le dernier prophète, Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4, qui annonce déjà cet événement. Le prophète écrit ceci, « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Il purifiera les fils de Lévi et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Jésus est entré dans son temple. Ce jour-là, Jésus est entré dans son temple, il est le Seigneur du temple. Et il a commencé à accomplir cette prophétie de l'Ancien Testament. Et la première chose donc qu'il fit, c'est de purifier la cour du temple. De purifier la cour du temple afin que les fils de Lévi, les fils d'Israël, soient eux-mêmes purifiés et qu'ils puissent présenter au Seigneur des offrandes pures. Mais en faisant cela, Jésus voulait montrer plusieurs choses. Et la première, c'est qu'il est venu pour supprimer tous les obstacles, la véritable adoration de Dieu. Israël avait mis en place toutes sortes de règles, de lois, de commandements, de préceptes d'hommes, dit le Seigneur. Jésus est venu pour balayer tout cela. Il est venu pour nous donner un libre accès à la présence de Dieu. Il est venu pour dire aux hommes que bientôt, ils n'auraient plus besoin de changer leur argent et d'offrir des animaux. Savez-vous ceci? Jésus est allé au temple pour prier. Il a célébré les fêtes au temple. Mais il y a une chose que Jésus n'a jamais fait au temple. Il n'a jamais participé à un sacrifice. Jésus n'a jamais offert un sacrifice. Il n'a jamais participé à un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et en chassant ces animaux, il annonçait déjà que lui, le véritable agneau de Dieu, est venu pour ôter les péchés du monde. Et que le sang des animaux ne coulerait plus, parce que le sien allait bientôt couler à Golgotha. Il annonçait aussi déjà que les hommes de toute nation allaient retrouver leur place dans l'adoration auprès de Dieu. Il faisait le ménage dans la cour des nations, parce que bientôt ces nations aussi, par le sacrifice de Jésus, pourraient s'approcher du trône de Dieu. Mais il annonçait déjà, comme il le dira quelque temps plus tard à la femme samaritaine en remontant vers la Galilée, qu'il soit juif, qu'il soit samaritain, qu'il soit grec, romain, français ou tout ce que vous voulez, il n'aurait même plus besoin de monter à Jérusalem pour adorer. « Crois-moi, lui dit-il, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient et elle est déjà venue. » Peut-être d'ailleurs se rappelait-il de cet événement. Il avait cet événement en tête, ce qu'il venait de faire à Jérusalem. « L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, 21, 23. Et enfin, Jésus annonce aussi la disparition prochaine de ce temple de pierre, temple magnifique, extraordinaire, une des merveilles de l'Antiquité, une maison à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur annonce sa destruction prochaine. Mais par-dessus tout, il annonce la venue d'un nouveau temple. Non pas un temple fait par la main d'un roi, non pas un temple d'or et de pierres précieuses et de marbre, mais un temple fait par la main de Dieu. Hébreux chapitre 10, Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais Dieu, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni holocauste, ni agrès, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Mais il est évident qu'à ce moment-là, la foule n'était pas prête à entendre ces choses. Au contraire, ils étaient profondément choqués de ce que Jésus venait de faire et encore plus de ce qu'il allait dire. Pour eux, il n'y avait aucun mal, au contraire, c'était légitime de faire ceci. Le commerce du changement des pièces était légitime, les pièces étrangères étaient impures et pour payer l'impôt du temple, il fallait les pièces du temple. Ces animaux devaient être purs, il fallait un animal pur pour être offert à Dieu. N'est-ce pas légitime ? Alors ils étaient choqués. Et du coup, ils sont allés trouver Jésus, mais pour dire, mais pour qui te prends-tu ? Quelle autorité peux-tu invoquer pour agir comme cela ? Et Jésus, au lieu d'apaiser les choses, je vais le dire ainsi, a aggravé son cas auprès de ces Juifs en proposant une solution radicale, un peu à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, d'un Jérémie. Il va leur dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais c'était une provocation. Pour les Juifs qui l'entendaient, c'était une véritable provocation. Parce que quand le Seigneur parle du temple, il utilise un mot particulier, nous le verrons, un mot qui signifie qu'une chose. Détruisez le sanctuaire. Détruisez le Saint des Saints. Détruisez le lieu où Dieu demeure. Et je le relèverai. Mais pour un Juif, parler comme cela, annoncer la destruction du Saint des Saints, annoncer la destruction du lieu où Dieu demeurait, mais c'était un scandale. Et quand Jésus leur dit « Je le relèverai en 3 jours », c'était une provocation. Et la parole de Jésus a tellement marqué les gens qui l'écoutaient que lors de son procès, ils lui ressortiront la chose. Certains viendront témoigner en disant hey, « Mais n'a-t-il pas annoncé qu'il était venu pour détruire le temple ?» Et c'était la chose la plus terrible que les Juifs pouvait entendre. Alors Jean tient à expliciter la parole du Seigneur, parce que ce que Jésus dit là est tout à fait, c'est plus qu'une réforme, c'est une révolution. Et au verset 21, il nous explique, le Seigneur, non, ne parlait pas de ces pierres, il parlait du temple de son corps. Et Jean nous fait comprendre, lui, Jean l'a réalisé bien des temps plus tard, mais il nous fait comprendre que Jésus avait bien sûr en tête sa mort et sa résurrection. En 3 jours, il fut relevé d'entre les morts. Et il nous fait comprendre aussi qu'au temple de pierre, fait de la main des rois, devait donc succéder un autre temple, un temple d'une matière inconnue jusqu'à présent parmi les hommes, un temple de la nature même de Dieu. Le nouveau centre du culte, de l'adoration, le nouveau temple, temple de l'Esprit, celui-là, c'est Jésus. Le corps de Jésus est la demeure de la gloire de Dieu. Le Père est en lui et lui est dans le Père. Jésus signifiait donc déjà au peuple que c'était son corps qui deviendrait le véritable objet de culte. Ce n'est plus le temple de pierre qui représenterait la présence de Dieu parmi les hommes, mais la présence de Dieu, c'est Jésus. Il est Emmanuel, Dieu avec les hommes. Jésus avait dit aux Juifs, détruisez ce temple. Ils ont bien tenté, en le clouant à la croix. En perçant ses mains, ses pieds, son côté. Ils ont bien tenté de le détruire. Et ils ont cru remporter la victoire lorsque il a expiré et baissé la tête. Mais ils avaient oublié qu'il avait dit qu'en 3 jours, il le relèverait. Et il n'était pas possible pour le Père que son Fils demeure dans le séjour des morts et que son corps voie la corruption. Son corps, c'est l'Église. Elle est pure, elle est sainte, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et au 3e jour, le Père est descendu par son Esprit. Dans le séjour des morts, il a relevé Jésus, son Fils, d'entre les morts. Et il l'a établi comme chef de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. L'Église est son corps. Et je vais aller jusqu'au bout de la pensée. L'Église, c'est Jésus. L'Église, c'est Jésus. Il est le temple de Dieu. Il est l'Église dans laquelle nous trouvons, juifs, non-juifs, femmes, enfants, infirmes, combien important, nous trouvons une place en tant qu'adorateurs. Dans l'Église, plus de parvis des nations. Dans l'Église, plus de cours réservés pour les femmes. Dans l'Église, plus de cours pour les hommes, plus de lieux saints, plus de... Ah, si, il y a le lieu très saint. C'est la seule chose qui demeure. Nous le verrons parce que c'est tellement important. Parce que des fois, nous sommes nous-mêmes déformés par rapport à cela. Et Jésus est très précis dans ce qu'il dit. Mais il n'y a plus de cours. Il n'y a qu'un lieu très saint. Et ça, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire à mesurer, c'est que l'Église, c'est le lieu très saint. Et plus encore, Christ qui a racheté ma vie au prix de son sang a fait de moi une habitation de Dieu en esprit. Que l'apôtre, que Jésus dise qu'il est le temple, oui, que Jésus dise que ça me va, mais quelle chose extraordinaire. Et encore, je comprends quand Paul dit que l'Église, oui, le temple du Saint-Esprit, ça c'est évident. Mais quand il va aller dire que moi, toi, nous sommes un temple de l'Esprit. Nous sommes, mes frères et sœurs, non pas une cour, mais nous sommes le lieu très saint. Le lieu très saint. Ce qui veut dire que oui, je vais aller jusque-là. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Mon frère, ma soeur, j'appartiens à Christ, mais plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Seigneur, mon corps, c'est ton corps. Mon corps, c'est ton corps. Ce que je vois, tu le vois. Ce que je fais, tu le fais. Ce que je dis, tu le dis. Garde-moi pur, Seigneur. Car par ma langue, je ne peux pas à la fois bénir et maudire. Seigneur, mes yeux par lesquels tu vois aussi, je ne peux pas les laisser traîner sur des choses impures. Mon cœur, Seigneur, ne peut pas être rempli de pensées qui ne te glorifieraient pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quelle chose extraordinaire. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, vous pouvez adorer, vous approcher, sans limite, sans restriction, sans condition d'âge, de sexe, d'infirmité, de pureté, de religion. Hommes et femmes de toute nation, de toute langue, approchez-vous de Dieu en Jésus-Christ et servez-le, car il est le Seigneur du temple. Mais par contre, comme Jésus commençait à l'annoncer en ce jour, 40 ans plus tard, le magnifique temple du roi, le magnifique temple de Jérusalem serait détruit, incendié, brûlé entièrement, au point, comme le Seigneur l'avait prophétisé, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. En conclusion de cette parole, que vais-je dire ce que je disais au début ? Jésus est le Seigneur du temple. Jésus, c'est le centre de notre adoration. Rien ne doit faire obstacle à l'adoration de son nom. Et à travers ce texte, nous avons besoin de nous interroger. L'apôtre Paul, vous savez, dans le passage sur la Sainte-Sainte dans 1 Corinthiens, nous invite à nous laisser examiner par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin aussi de temps en temps de nous laisser examiner. Le prophète avait dit, et soudain le Seigneur rentrera dans son temple. Je fais un parallèle, vous allez voir, ça paraît tellement évident, entre Jean chapitre 1er et les premiers chapitres de l'Apocalypse de Jean. Jean chapitre 1er, c'est la révélation de Jésus, la parole de Dieu éternel. Apocalypse 1er, c'est la révélation de Jésus glorifié. Jean chapitre 2, Jésus entre dans son temple. Apocalypse chapitre 2, 3, 4, Jésus entre dans son église. Jésus entre dans ses églises. Et quand il marche au milieu de son église, il est en flamme. Le zèle de sa maison le dévore. Ses pieds sont un airain ardent, ses yeux des flammes de feu, et de sa bouche sort une épée à double tranchant. Il marche au milieu de son église. Il voit tout, il connaît tout, il pèse tout. Dans son église, il n'y a pas de cour des nations, il n'y a pas de cour des femmes, il n'y a qu'un lieu très saint. C'est la maison de Dieu, c'est sa maison, c'est son corps. Et il regarde. Et il regarde si dans son église, il n'y a rien qui vient faire obstacle à la libre adoration de son nom. Pour les Juifs, c'était peut-être des vendeurs, des changeurs d'argent. Mais dans l'église, il nous est arrivé tellement de fois de mettre des postes de péage à l'entrée de l'église. Tu ne peux venir adorer, louer, que si tu es comme ceci, que si tu es comme cela. Dieu merci, nous apprenons à nous débarrasser de toutes ces choses. La religion est un obstacle. L'évangile, c'est la liberté. Et Jésus nous invite à nous approcher afin qu'il nous change entièrement. Mais nous ne voulons que dans l'église, il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à la libre entrée de ceux qui viendraient parmi nous. Nous voudrions non plus qu'il n'y ait rien d'impur au milieu de nous. Nous voudrions qu'il n'y ait rien qui prenne la place de Christ. Christ doit demeurer le Seigneur du temple, le Seigneur de l'Église. Mais il arrive trop souvent, et nous devons nous examiner par rapport à cela, qu'il y ait des choses qui prennent la première place. Parfois c'est notre service lui-même, notre désir de faire les choses bien. Mais c'est tout à fait légitime. Les Juifs pensaient que les animaux et les changeurs étaient légitimes pour bien faire fonctionner le temple. Et des fois, nous avons tellement de choses que nous pensons être légitimes dans l'Église et qui, en fait, occupent trop de place par rapport à la prière et à l'adoration. Que le Seigneur puisse nous amener toujours à réfléchir à cela. Il arrive même que nous vivons dans l'Église que par notre service. Il m'est arrivé de rencontrer des gens comme cela. Ils n'étaient présents à l'Église que parce qu'il y avait le service. Mais sans cela, il n'y avait rien, aucune relation entre eux et le Seigneur. Mais ce que je dis pour l'Église, je le dis pour chacun d'entre nous. Jésus est-il le Seigneur de ce temple que je suis ? Et si le Seigneur soudainement entrait dans ma vie, serait-il obligé de fabriquer un fouet ? Serait-il obligé de renverser les tables s'il le fallait qu'il le fasse? Mais je voudrais qu'il puisse tellement rentrer dans ma vie en se réjouissant de trouver une maison dans laquelle son nom est glorifié. Seigneur, qu'il n'y ait rien en moi, qu'il n'y ait rien en moi qui prenne ta place, qu'il n'y ait rien en moi que je trouve légitime, qui soit plus important que toi. Je suis ton temple, tu en es le Seigneur, tu en es l'alpha, tu en es l'oméga, le début et le commencement. Tant de choses occupent nos vies. Et l'une d'entre elles, mes frères et sœurs, que je vois beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de messages, dans beaucoup de prédications que nous pouvons entendre de ci, de là, par des prédicateurs de grand renom, ce que je vois, c'est que l'homme a pris la place de Jésus. On prêche l'homme. On encourage les gens. On leur promet toutes sortes de choses. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Ce qui est important, c'est que lui demeure toujours là. À quoi servirait le temple? À quoi servirait l'église si Jésus n'était plus présent? Qu'il est bon de temps en temps de dire « Seigneur, entre dans ma vie ». Je disais, Paul nous encourage, laissez-vous examiner. Mais Jésus ne viendra pas forcément avec un fouet, mais il va toujours venir pour nous redresser, nous encourager. Mon frère, ma sœur, depuis quand? Plutôt, quelle est la dernière fois où tu as demandé à Jésus de changer quelque chose en toi? Et tu es prêt à faire cette prière et à dire, Seigneur, viens me visiter encore une fois. Viens me visiter. Attention, c'est une prière qui engage. Il vient avec des yeux perçants, avec une parole percutante et tranchante. Viens me visiter. Ok, Seigneur, j'accepte de passer par cela. Et je le dis pour l'Église aussi. Viens nous visiter, viens toujours. Seigneur, viens nous purifier comme tu as purifié les fils de Lévi. Parce que nous voulons présenter au Seigneur des offrandes pures avec justice. J'accepte cela. Avant toute autre chose, j'accepte cela, Seigneur. Parce que je veux que tu sois toujours le centre. S'il y a besoin de faire un peu de ménage, fais du ménage, Seigneur. Fais du ménage dans nos vies. Vous verrez, vous vous sentirez mieux, n'est-ce pas? Oh Seigneur, merci encore. Et la dernière chose, dernier point avec lequel je finis. Qu'en est-il de notre zèle pour la maison de Dieu? Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas en train de vous parler du zèle que vous pourriez avoir pour notre assemblée, pour notre église à Bastille, du zèle que vous pourriez avoir pour les pasteurs, pour les anciens, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle du zèle pour Jésus. Est-ce que vraiment, Seigneur, les affaires de ton royaume sont quelque chose qui me dévore? Est-ce que la passion de ton nom est quelque chose qui m'habite? Est-ce que, Seigneur, mon Dieu, le désir de te louer, de t'adorer, d'être auprès de toi, d'être ce temple, Seigneur mon Dieu, c'est quelque chose qui brûle en moi comme un feu ardent. Et puis, vous vous rendrez compte alors qu'il y a d'autres choses qui brûlent, d'autres lumières, d'autres lampes. Seigneur, tout ça, ça n'a plus place en moi. Viens faire un grand nettoyage dans ma vie. Viens faire un grand nettoyage. Je finirai peut-être par cette parole un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'à Pâques, ça tombe au printemps. Et que si les mamans juives faisaient le nettoyage dans la maison, pour enlever tous les grains de levain, le Seigneur du Temple a fait le nettoyage dans sa maison. Et nous avons besoin d'un grand nettoyage de Pâques. N'est-ce pas? Ça fait du bien de temps en temps. Gloire à Dieu.